Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Fou d'histoire pour entendre ceux et celles qui ne sont pas historiens, pas historiennes, mais qui, par leur démarche, étudient le passé. Romanciers, poètes, cinéastes. Gérard Mordilla est fou d'histoire. Des lieux, des gens, des discours. C'est la Palestine, Corpus Christi et les évangiles, c'est Jérusalem. Jésus et Ecce Homo, ce sont les paysans en guerre, Luther et les exaltés. C'est la Commune, Lucie Beau et les fédérés.
Au Père Lachaise, devant le mur des fédérés, le peuple de Paris, fidèle à un souvenir vieux de 75 ans, est venu honorer les morts de la Commune, fusillés par les pelotons de l'armée des Versaillais. Sous la direction des grandes organisations ouvrières, une foule immense a accompli le pèlerinage maintenant traditionnel au mur tragique devant lequel périrent les communards. Paris qui se souvient, Paris qui n'est Paris qu'arrachant ses pavés, selon le mot du poète, songe devant ce mur à d'autres murs plus proches, à d'autres morts plus proches.
Cérémonie du souvenir au mur des fédérés, nous étions dans le journal des actualités françaises en 1946. Bonjour Gérard Mordilla.
Bonjour.
C'est chez vous ça, le mur des fédérés, le Père Lachaise, vous y allez de temps en temps, vous baladez ?
Oui, j'y vais. Et d'ailleurs, il y a toujours une chose que j'ai regrettée. Lorsqu'on va au mur des fédérés, on se place devant le mur. Et on se place en fait du point de vue des fusilleurs. Moi, je pense que l'hommage aux fédérés, ce serait de se retourner pour regarder ceux qui tirent sur le peuple et non pas face d'être à la place du peloton d'exécution.
Ah, c'est une remarque très juste, cela. Oui, j'y avais jamais pensé. C'est vrai que ce mur des fédérés, il est tout au fond, là-bas, du cimetière, avec, autour du mur, on voit les sépultures des grands noms.
De tous les grands noms de l'histoire populaire et de l'histoire politique française, du Parti communiste, etc. Tout le monde... Voilà. Moi, j'y suis allé, mais très petit. Mon père m'emmenait là, toujours le 1er mai. Et je me demande si même j'ai vu, en tout cas, sans doute, des vieux messieurs barbus, moustachus, etc., qui devaient être les enfants des communards, de certaines célébrités du coin, etc. Mais on y allait systématiquement, et j'y suis encore allé, il n'y a pas très longtemps, dernier 1er mai, on y est allé tous ensemble, oui, encore une fois. Mais je dis, la place n'est pas la bonne. Il faut maintenant appeler tous ceux qui y vont à ne pas prendre la place des fusilleurs, mais à prendre la place des fusillés, et de... évidemment, protester encore une dernière fois contre cet assassinat, je veux dire. Et puis, quand on pense qu'il y a une rutière à Paris, c'est quand même une honte.
Avec cette histoire à transmettre, cette mémoire également, on l'entend. Transmission familiale, hein, votre père vous accompagnait au mur des fédérés.
Oui, tout le temps, oui. De toute façon, moi je suis du 20e, et le 20e était chargé d'histoire, puisqu'il y avait évidemment la Commune, mais il y avait aussi 36, où il s'était passé beaucoup de choses. Et lorsqu'on marchait dans la rue avec mon père, tout le temps il me racontait les histoires de ce qui s'était passé là, les bagarres, etc. Et puis, même familièrement, puisque notre arrière-grand-père paternel a été vraisemblablement un communard, puisque la chose que racontait toujours mon père, c'est que son grand-père donc lui disait qu'ils avaient échappé à être soit des pieds noirs, soit des canaques. Voilà, il avait donc échappé à la fusillade et échappé à la déportation.
Ah oui, 20e arrondissement de Paris, c'est vrai que vous êtes doublement du 20e, Gérard Mordilla, 20e siècle, 20e arrondissement. Et ici, on a quelque chose qui est important dans cette... mémoire de la gauche, c'est la transmission. Il y avait la culture pour savoir d'où on venait. Ça, par exemple, dans le Parti communiste, c'est quelque chose qui était très fort.
La chance, quand j'étais enfant, donc au carrefour de la rue Orfila et de la rue des Pyrénées, il y a plusieurs choses. D'une part, tous nos parents travaillaient, ce qui change tout. Ensuite, les institutrices et les instituteurs habitaient tous dans le quartier. Donc, on les voyait au marché, on les voyait au billard, on les voyait en dehors de l'école. Ensuite, c'était le moment de la guerre d'Algérie. Et donc, il y avait des grandes manifestations contre la guerre d'Algérie, où tout le monde se retrouvait, les parents, les instits, les élèves, etc. Il y avait une cohésion sociale très importante. Et puis, il y avait aussi une chose qui est pour moi très importante, il y avait une langue aussi. On parlait d'une certaine manière. Il y avait un humour très particulier, assez agressif, toujours sur... Mais il y avait ça. Et cette histoire-là, eh bien, c'était quelque chose qui forcément ne pouvait que porter l'individu. Et un des instituteurs que j'ai eu en CM2 faisait une chose magnifique qui nous a tous marqués, parce que mes copains actuels, mes copains d'enfance, on se connaît tous encore, enfin beaucoup, et cet instituteur, tous les matins, avant de faire cours, nous lisait un passage de l'histoire de la Révolution de Michelet. Pendant 10 minutes, un quart d'heure, et il n'y avait pas d'interrogation, il n'y avait pas de discussion, il n'y avait pas de devoir, il fallait écouter simplement, et on suivait ça comme un feuilleton.
C'est incroyable ce que vous racontez là, parce que on sent que, associé à la volonté de comprendre par l'histoire, il y a aussi le plaisir de l'histoire.
Absolument, absolument.
À le plaisir de découvrir l'histoire, et notamment en écoutant cette histoire racontée par Jules Michelet.
Dans ce jardin plein de soleil, égayé d'une foule riante et parmi les jeux des enfants, elle chercha, trouva un coutelier et acheta 40 sous un couteau, frais et moulu, à manche d'ébène, qu'elle cacha sous son fichu. La voilà en possession de son arme. Comment s'en servira-t-elle ? Elle eût voulu donner une grande solennité à l'exécution du jugement qu'elle avait porté sur Marat. Sa première idée, celle qu'elle conçut à Caen, qu'elle couva, qu'elle apporta à Paris, eût été d'une mise en scène saisissante et dramatique. Elle voulait le frapper au Champ de Mars, par devant le peuple, par devant le ciel, à la solennité du 14 juillet, punir au jour anniversaire de la défaite de la royauté ce roi de l'anarchie. Elle eût accompli à la lettre, en vraie nièce de Corneille, les fameux vers de Cinna. « Demain au Capitole, il fait un sacrifice, qu'il en soit la victime. Et faisons en ces lieux justice au monde entier, à la face des dieux. »
Charlotte Corday, Marat, Histoire de la Révolution française par Jules Michelet. Jules Michelet, c'est le 19e siècle. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, c'est une lecture par Max James. Mais pour vous, Gérard Mordillat, c'est la lecture de l'instituteur dans ces années 1960.
C'est ça, 59, oui, voilà.
59, ouais, vous êtes né en 49.
Enfin, vous avez 9 ans, vous entendez ça, c'est formidable. Enfin, on suivait ça, mais passionnément. Et je pense que tous ceux qui étaient dans la classe de Monsieur Elie, puisque c'était son nom, se souviennent de ça avec ferveur, parce que on attendait ça, et ça nous mettait dans une, je pense, une disposition particulièrement forte pour écouter ensuite ce qu'on allait nous enseigner.
Je vous cache pas, Gérard Mordillat, ce que nous souhaiterions savoir aujourd'hui dans le cours de l'histoire, c'est ce cheminement intellectuel qui vous fait venir à l'histoire, mais ça on le comprend, ça y est, vous nous l'avez dit, c'est là. Le plaisir de raconter aussi, vous venez de nous le dire, c'est là. Comment on passe d'un sujet à l'autre ? Vous avez écrit votre premier roman en 1981, Vive la sociale. Là, il y a une certaine logique.
Oui.
Mais alors après, il y a un parcours. Hein.
Non, mais après, il y a tout simplement le travail de l'écriture. Je veux dire, c'est toujours la même chose. Lorsqu'on publie un livre, qu'on écrit un livre, à moins d'être un crétin fini, qu'on se dit que ce n'est pas vraiment ça. Je veux dire, j'avais beaucoup aimé dans la Paris Review, Faulkner qui disait « Si je pouvais réécrire tous mes livres, je le ferais et en mieux ». Eh bien donc, je pense que lorsqu'on est face à une chose que l'on a écrite, on se dit « On peut encore quelque chose de mieux », et donc on continue. Et c'est vrai que je me suis intéressé à beaucoup de domaines, et notamment, finalement, à donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Aussi paradoxal que ce soit, lorsqu'avec Nicolas Philibert, nous réalisons notre premier film sur le discours patronal, eh bien, c'est un endroit où, à ce moment-là, les patrons, les grands chefs d'entreprise, ne sont pas entendus, ils peuvent faire soudain leur théorie du monde et découvrir ça. Et ensuite, je me suis aussi intéressé à travers Antonin Artaud à la Voix des Poètes, qui, à mon avis, ne domine pas les sciences aujourd'hui, puis aux travaux exégétiques et sur l'historico-critique à partir des textes du Nouveau Testament.
Oui, parce que, bien sûr, votre nom, avec Jérôme Prieur, est associé à tout ce travail fait autour de ce Nouveau Testament, mais qui ne nous conduit pas ici dans cette ambiance que vous nous avez évoquée en début d'émission, Belleville est plutôt proche du Parti communiste.
Oui, mais enfin, je voulais voir le chemin. Non, voilà, je lis, il y a très 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 longtemps, au Moyen-Âge, je lis le texte d'Engels sur les guerres paysannes en Allemagne au XVIe siècle, que je trouve absolument passionnant, et je m'en ouvre à Geneviève Serrault, qui était la secrétaire de rédaction des Lettres Nouvelles avec Maurice Nadeau. Et Geneviève m'offre l'essai de Ernst Bloch sur Thomas Münzer, que je lis là aussi avec beaucoup d'intérêt, et surtout je comprends là quelque chose, c'est que à partir du moment où Luther a traduit en allemand la Bible hébraïque, puis le Nouveau Testament, eh bien, le discours religieux devient le support du discours politique. Comme je vais beaucoup à la Cinémathèque, je m'ouvre de ça à Slanska, qui tenait la caisse, mais je connaissais aussi Henri Langlois et Marie Merson, et Slanska me dit qu'il faut en parler à Roberto, et Roberto, c'était Roberto Rossellini. Et donc je passe, il était venu pour la projection du Pascal, je ne vois pas le film puisque je passe toute la projection à discuter avec lui, et ensuite j'ai travaillé pendant 3 ans pour lui sur ce terrain-là. Donc vous voyez, le lien, il est... Ça part de Engels, puis on arrive au cinéma, et via Geneviève Serrault, qui, entre autres, était fille de pasteur, et c'est elle qui me fait lire le Nouveau Testament, que je n'avais jamais lu, j'avais aucune idée de ce qu'il y avait dans ce texte-là, et qui me guide aussi dans les lectures bibliques, qui me dit, tiens, mais faut que tu regardes ça, faut que tu vois ça, etc., etc., parce que sans ça, c'était incompréhensible. Le livre de Ernst Bloch, c'était une énigme, d'une certaine manière. Donc, vous voyez, le lien, il est par la littérature et par le cinéma.
Et la curiosité. Hein.
Ah bah oui, forcément, s'il n'y a pas de curiosité, on est mort.
Ah ouais, cette curiosité, mais c'est ça aussi qui alimente cette chaudière incroyable qu'est le cerveau, ces lectures, toujours aller ailleurs, peut-être dans des endroits inconnus, où, comme vous le dites Gérard Mordilla, vous êtes moins en terrain conquis dans le Nouveau Testament. Vous avancez, faut décrypter, mais c'est en ça que c'est passionnant.
Faut décrypter, il faut lire. Je pense que c'est la chose fondamentale. Lorsqu'avec Jérôme Prieur, on a commencé à faire ce qu'allait être Corpus Christi, avec l'arrogance de l'ignorance, on pensait qu'il suffisait d'y aller et ça allait. Très vite, on comprend que c'est pas le cas du tout. On rencontre le père Grelot qui nous fait un cours magistral et qui nous envoie dans les cordes directement. Et entre le moment où on s'est décidé à le faire et le moment où ça a été diffusé, il s'est passé 7 ans. Et à deux, assis l'un en face de l'autre comme dans une yeshiva, je pense qu'on a dû lire à peu près 500 livres, ne serait-ce que pour soutenir la conversation. Et je pense que la lecture, donc l'écriture, sont fondamentales et que le cinéma est une forme d'écriture.
Ah oui, parce que pour vous, il y a ça. On le voit nettement dans votre œuvre, on peut le dire, et de manière générale, la forme importe peu en soi, sinon pour porter un message particulier, mais il y a le roman, il y a la poésie, il y a la bande dessinée, il y a le film, il y a toute forme possible. C'est le message qui compte avant tout.
Mais c'était la grande leçon de Rossellini. Rossellini, qui à ce moment-là ne trouvait d'argent nulle part sauf en France, n'avait aucun mépris pour la télévision. Parce que pour lui, il n'y avait pas un genre noble qui serait le cinéma et un genre vulgaire qui serait la télévision. Il fallait simplement créer des œuvres et les œuvres trouveraient leur public. Et moi, je suis resté absolument fidèle à cette théorie philosophique finalement sur l'art. Quoi, voilà. Et ça, c'est ça qui importe. Et donc, eh bien, on peut écrire, on peut tourner, et puis c'est important surtout de toujours faire cet aller-retour, en tout cas pour moi, entre l'écriture et le cinéma. Ça va toujours. Il y a cette phrase de Mallarmé que j'adore quand il dit que la danse, je crois, ou la musique, je ne sais plus, et la poésie s'allument de feu réciproque. Eh bien oui, c'est exactement la chose telle que je l'aperçois.
Corpus Christi, c'est ça. Il est possible de lire Corpus Christi et c'est un régal. Et il est possible aussi de le voir. On en a tous un souvenir. Hein. C'était sur Arte. Quelle belle chaîne, Corpus Christi.
Jésus est un troublion, quoi. Un troublion, un messie. Vous savez, qu'est-ce qu'il y a donc de venimeux dans ce monde messier ? Si, mot messie, c'est le mot qui décalque, vous voyez, le mot meshira, le mot ouin, hein, de quelque onction royale, et donc quelqu'un qui est désigné, qui se désigne ou qui est désigné au moins par les autres comme étant, par ses disciples, comme étant un ouin, un messie, un roi. Or, il n'y a pas de César, il n'y a pas plusieurs rois. Hein, il n'y a que, voilà, il n'y a que César, hein, il n'y a que Tibère en l'occurrence. Oui. Le seul fait de désigner que Jésus se désigne ainsi ou que d'autres, simplement les désigner ainsi, eh bien, l'amener inéluctablement devant le trône de le siège de Pilate pourrait être jugé.
Voilà le père Charles Perrault qui raconte pas des contes ici dans Corpus Christi. C'était en 1987 avec quelque chose, j'imagine, tellement dur pour vous, Gérard Mordilla, et pareil pour Jérôme Prieur, d'être face à des théologiens qui maîtrisent tant de langues et tant de subtilités.
Pas des théologiens, des exégètes, c'est pas la même chose. On n'était pas sur le terrain de la théologie. La question de l'analyse et de la place de Dieu dans l'histoire ne nous a pas préoccupés. Ce qui nous préoccupait, c'était la littérature. Parce que les seuls vrais témoins de cette histoire sont des textes. Il n'y a évidemment pas de reliques, il n'y a pas non plus de géographie. Lorsqu'on avait demandé au père Naudet, qui vient de décéder à Jérusalem, ce qu'on pouvait filmer à l'extérieur, ils s'étaient moqués de nous en disant « Allez donc filmer, il y a des bouts du mur, du temple, ça c'était là, la colline en face, elle était là aussi, puis il y avait une source entre la Galilée et la Judée, ils ont bien dû passer par là. Il n'y avait rien. Et c'est lui qui racontait très bien comment on faisait un lieu saint. Il dit, c'est facile pour faire un lieu saint, il faut d'abord une route pour que les pèlerins puissent marcher, puis quand ils sont fatigués, ils s'arrêtent. Donc il y a un marchand de cacahuètes qui vend des cacahuètes, et là, puis après on monte une épicerie, puis après on monte une basilique et ça devient un lieu saint. Je veux dire, Nazareth, les fouilles archéologiques à Nazareth, c'est 2 siècles après. Donc ça veut dire que soit c'était pas là, soit c'était autre chose, etc. Mais enfin, il n'y a pas ça. Mais on a des témoins très forts qui sont les textes. Et ça, je pense que c'est la chose fondamentale qui m'a toujours finalement sollicité. C'est la littérature.
Ah, la littérature et la construction du discours. On l'entend bien, que ce soit par exemple dans le Nouveau Testament ou dans les textes associés au Nouveau Testament. Hein.
Oui, mais parce que on peut toujours être pris la main dans le sac d'être un lecteur distrait. Et c'est vrai qu'il faut apprendre à lire, et comme il faut apprendre à voir, et c'est tout l'effort que nous devons faire. Alors, quand on affronte les textes du Nouveau Testament, tant d'intelligence s'y sont déjà exercées que le défi est vraiment très important et qu'il faut être capable de le relever. Ce qui ne veut pas dire qu'on va arriver... La grande erreur, ça serait d'arriver à des choses péremptoires et définitives. Là, on est sûr qu'on se trompe, mais en tout cas, de savoir bien poser les questions.
Savoir poser les questions et laisser la parole aux autres. Parce que c'est aussi ça, le succès de Corpus Christi. Et puis, de tout ce travail qui a pu être fait, c'est laisser la parole aux spécialistes et confronter les différents discours, mais ne pas s'approprier ces discours-là pour les restituer, et peut-être avec une certaine erreur.
Mais... Enfin, vous avez tout à fait raison, parce que ce qui fait la force de Corpus Christi et d'autres travaux que j'ai pu faire de même nature, c'est que justement, on restitue au spectateur quelque chose qui leur est généralement dénié, c'est-à-dire la capacité d'exercer leur esprit critique. Et qu'est-ce qu'on voit? Je vais prendre Corpus Christi, on voit des savants dont l'érudition est incontestable, qui sont polyglottes, et qui sont capables de dire quelque chose que personne n'ose jamais dire à la télévision, nous ne savons pas. Par hypothèse, nous pouvons supposer que, et comme disait Paula Frederiksen, une historienne américaine, si nous étions conséquents, nous écririons tous nos livres au conditionnel. Eh bien, je crois que c'est ça. Parce qu'à partir de ce moment-là, ça vous donne une place à vous, spectatrice ou spectateur. Si ces savants sont capables de ne pas savoir, moi, je n'ai pas de honte à réfléchir et à réfléchir face à ce qu'ils proposent. Je ne suis pas devant quelqu'un qui m'assomme d'un savoir et d'un cours magistral. C'est l'erreur. Enfin, c'est pas de la pédagogie. Il faut surtout pas faire de pédagogie. Il faut mettre en évidence le doute et l'interrogation.
Avec toujours cette possibilité de pas de côté en changeant de forme et notamment en allant vers la littérature. Parce que la littérature, elle va permettre de porter une narration sur laquelle, écoutez, il y a tout ce qu'il faut en histoire, mais il faut que ce soit solide quand même. Mais au moins, la transmission est là aussi, en pas de côté.
C'est le pas de côté, puis c'est aussi une façon constante de rendre justice au livre, à son importance, et notamment à l'importance du roman qui, pour moi, m'apparaît aujourd'hui comme le dernier véritable endroit où peut s'exercer une liberté de pensée. On peut chercher le roman, c'est cet outil extraordinaire qui véhicule de l'histoire avec un grand H, des histoires là, mais aussi du savoir, du pouvoir, du devoir, etc., etc. Donc quelque chose qui permet de prendre à bras le corps le réel en le chargeant de tout ce que l'on peut être et de tout ce que l'on peut savoir. Ça, c'est ça la littérature pour moi.
Et puis on rajoute toujours ce plaisir parce que cette émotion que l'on a quand on est pris par un ouvrage et en avance on veut connaître la suite et cette déception parfois aussi quand l'ouvrage est terminé en se disant mince c'est déjà fini, c'est ça, c'est de l'émotion.
Vous avez dû connaître ça, je veux dire quand on lit un livre passionnant et qu'on ralentit la lecture en arrivant quand on sent la fin pour justement ne pas le quitter trop vite, pour rester jusqu'au bout avec ça, avec ce dialogue très spécial du texte et de l'individu. Parce que non, mais c'est vrai, quand je dis on le prend à bras-le-corps, eh bien, c'est vraiment ça. Et notamment, le roman, à mes yeux, invente une lectrice et un lecteur intelligent. C'est-à-dire qu'on est face à un autre qui est soi-même, et soudain, ce soi-même est capable de mettre en question tout ce que l'on croyait savoir, et tout ce que l'on croyait ressentir, et tout ce que l'on peut espérer. Et donc, c'est vrai que c'est là un outil, voire une arme indispensable.
C'est vrai, ralentir la lecture pour ne pas quitter le roman, tout comme on peut revenir sans cesse sur ces mêmes sujets. Gérard Mordillier, on le voit bien, vous ne quittez pas vos sujets, il y en a plusieurs, hein. Mais on évoquait par exemple Jésus qui revient sans cesse, ou la religion en général, parce que ces sujets ne s'épuisent pas. Et être humain que nous sommes, nous vieillissons, notre regard change, il y a eu d'autres lectures, et vous revenez comme ça, avec toujours des biais, des angles différents sur des sujets qui demeurent passionnants.
Oui, mais parce que à partir du moment où vous faites un travail critique sur les textes, que ce soit sur les textes du Nouveau Testament, mais que ce soit aussi, j'ai préfacé une réédition des chapitres sur le travail et sur le salaire chez Marx, je veux dire, c'est le même travail, c'est la même chose, c'est la même chose. Et à partir de là, à partir de cette enquête sur le texte, cette réflexion sur le texte, quand vous vous lancez sur ça, tous les romans policiers vous paraissent extrêmement pâles.
C'est vrai. Parce que c'est une question d'enquête. L'histoire, étymologiquement, c'est une enquête. Et parfois, l'enquête conduit à des tensions assez nettes à travers les siècles, qui d'ailleurs nous étonnent toujours encore. Je vous propose une relique. Vous avez dit qu'il n'y en avait pas, mais si, il y en a.
Depuis des siècles, la chrétienté tout entière vénère le Saint-Suaire. Sur ce lambeau de tissu décomposé par les sueurs d'agonie, on peut voir, reproduit comme par un négatif photographique, l'empreinte du visage et du corps de Jésus. Et on a pu retrouver de façon certaine la position du Christ dans le tombeau, d'après la double marque visible sur le suaire, celle du devant du corps et celle du dos. Mais c'est à un peintre de Turin, le docteur Ferry, qui étudie ce problème depuis 22 ans, que nous devons aujourd'hui ces essais de reconstitution du corps et des traits de Jésus, d'après les données anatomiques du Saint-Suaire. Sans doute, l'aspect athlétique de la silhouette retrouvée ne laisse pas de surprendre. Ans de recherches patientes et minutieuses, 22 ans de labeur quotidien, ont permis à un homme de réaliser ce que l'on serait tenté d'appeler la photographie du Fils de l'Homme.
En 1952, les actualités françaises, le sueur de Turin, avec un peu de moquerie quand il est question de ce Jésus hyper athlétique, et c'est vrai qu'il est tout en muscles. Le sueur chez Futuropolis avec Jérôme Prieur, c'était en 2017, avec plein de rééditions. Le sueur, c'est pas rien de ça.
Oui, c'est la grande farce du catholicisme, parce que, on va pas faire la discussion ici, mais effectivement, il est athlétique, et il y a une revue américaine de sciences médicales qui s'est lancée dans vraiment une mesure du personnage. Alors, il est formidable, parce que il a des bras qui lui permettent, comme Jerry Lewis, de se gratter sous les pieds sans plier les genoux. Il a des doigts de 16 cm. Et il a un front de quête très petit, qui suppose que ça serait un idiot congénital. Et puis, arrêtons avec ce truc-là. Imaginons, faut se placer dans le cadre, bien entendu, du judaïsme. Comment imaginer un linge souillé qui aurait été conservé? C'est impensable pour, dans le cadre du judaïsme. Et comment imaginer un mort avec les mains croisées sur le pubis? C'est pas sérieux, ça n'existe pas. Donc, c'est une image. Et puis, bon, la chose la plus drôle, d'une certaine manière, c'est que l'avant est plus court que l'arrière de 14 cm. Donc, le personnage, il est extraordinaire. Il est vraiment extraordinaire. Non, on veut croire, et je crois que c'est vrai qu'on dit que le rire est le propre de l'homme, mais moi, je crois que c'est surtout la volonté de croire qui est le propre de l'homme. Parce que vous pouvez faire toutes les démonstrations, et Henri Broch l'a fait de façon définitive, à mon avis, qu'en aucun cas ça peut être le sphère de Jésus ni de qui que ce soit d'ailleurs. C'est un modèle en bois sur lequel on a imprimé une chose au tampon. Bon, on sait le faire. Henri Broch, qui est prof de physique à Nice, vous en fait autant que vous en voulez. Et ça a toutes les caractéristiques de ça. Et quand j'entendais dire c'est la photo de ça, c'est un texte de Claudel qui nous a fait beaucoup rire, Jérôme Prieur et moi, où Claudel voit la photo du Christ. Mais. Enfin, je veux dire, il avait sans doute abusé de substances illicites à ce moment-là.
C'est pas le genre de Claudel, mais ce qui est fascinant dans le sphère. Non, mais c'est vrai que de dire que un juif n'aurait jamais pu être enseveli de cette manière, c'est strictement impossible. Ça nous conduit à tout ce travail sur Corpus Christi, Jésus après Jésus, etc. C'est de dire que ce sphère créé à la fin du XIVe siècle,
oui,
à peu près.
Oui, c'est ça, à Lirey, pas à côté de Troyes, oui.
Oui, parce que, et d'ailleurs, c'est très documenté par les historiens, les historiennes.
Bah bien sûr, il y a les lettres des deux évêques qui protestent contre la cupidité des moines de Lirey. Parce que c'est ça, nous aussi, qui nous fascinait, Jérôme et moi, c'est que, en fait, c'est une sorte d'invention de la séance cinématographique. Comment ça se passe? Eh bien, les gens font la queue pour voir le sphère, donc pour rentrer dans l'église, ils payent leur obol. On les assoit, là il y a peut-être un moine ou des sœurs qui chantent un cantique, et puis on hisse tout doucement le sphère sur une bannière éclairée par des chandelles. C'est formidable, c'est d'un seul coup le cinéma. Alors on finit le cantique, on redescend truc, on pousse tout le monde dehors par la sortie de l'arrière, et on fait rentrer la deuxième séance. C'est exactement ce qui se passait. Alors, évidemment, le pape réagit aux lettres des évêques, mais le problème, c'est que celui qui organisait les monstrations, comme on dit, c'était son neveu. Et donc, il a autorisé, à condition que l'on précise que c'était une véritable image, en latin, bien entendu. Pensez que les paysans de Troyes, le latin, la différence entre une véritable image et une image véritable, ça devait un peu leur échapper. Non, mais tout ça... Et ça... Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le sphère, ont été les partisans de l'authenticité des gens qui ne sont pas des religieux. L'Église est toujours restée à distance de ça, en disant, bon, après tout, si ça sert la piété populaire, pourquoi pas, et puis ça rapporte, donc allons-y. Mais ceux qui ont voulu prouver à toute force que c'était authentique, c'était chirurgiens, physiciens, chimistes, etc. Il y avait un chirurgien français, le docteur Barbet, qui a crucifié à tour de bras des cadavres pour montrer que ça ne pouvait être que le sphère, mais bon...
Non, mais ce qui est passionnant aussi, c'est de comprendre pourquoi, en cette fin du XIVe siècle, ce sphère est construit. Et faisant d'un Jésus quelqu'un qui rompt avec le judaïsme, il y avait tout cet intérêt de montrer que Jésus n'était pas juif.
Ah ben, c'était la grande... Vous savez, ce qui est la fin du... La grande question, c'est la peste. Puisque ça va liquider un tiers, voire la moitié de la population européenne. Donc, à partir de ce moment-là... On autorise les peintres à représenter l'agonie, la souffrance et la mort, ce qui n'était pas le cas avant, puisqu'on montrait Jésus toujours en majesté. Hein. Il était à la mode byzantine, sur la croix, entièrement habillé. D'ailleurs, peut-être était-il habillé dans ce qui a servi à Lirey, mais ça, bon, c'est une autre histoire. On représente ça. Et là, tout de suite, se pose une question formidable. Sur la croix, on le sait par les historiens romains, les crucifiés étaient nus. Donc, ça pose un double problème, dont un problème vraiment sérieux. Le premier problème, c'est est-ce que on peut montrer le Seigneur nu? Est-ce que ce n'est pas impudique? Mais surtout, dans l'évangile de Luc, il est circoncis au sixième jour. Ah, alors là, c'est plus compliqué, parce que ça montre qu'il est juif. Ce qui voudrait dire qu'il faut être juif pour être chrétien. Et donc, Bah dans le sphère, on lui met les mains sur le sexe, ça évite comme ça de.
C'est clair,
poser
ça
des questions.
Ah, mais c'est pratique ça.
Bah voilà, c'est voilà.
On trouve toujours des solutions. Hein.
Bah oui, on trouvera des solutions, notamment en montrant l'enfant Jésus, parce que là, on peut montrer à la fois qu'il a un sexe, donc c'est bien un homme, c'est pas un démon incorporel, et en même temps, mais bien qu'il y ait des certaines représentations où il est circoncis.
Avec, en cette fin du XIVe siècle, on va dire la création du sphère qui devient le sphère de Turin, mais il y a la naissance d'un homme dont la destinée va changer le monde.
À la mairie de Bobigny, exposition Gutenberg, à l'occasion du 500e anniversaire de la mort du père de l'imprimerie. On ne sait pas exactement en quelle année naquit Jean Genfleisch, fils d'un orfèvre, probablement entre 1394 et 1399, dans une maison appelée Zum Gutenberg, à la Bonne Montagne. Jusque-là, les clercs assuraient manuellement la reproduction de tous les ouvrages. Graveurs sur bois, imagiers, enlumineurs, typographes et imprimeurs, relieurs, papetiers. L'imprimerie était inventée. Une exposition intelligente et attrayante en l'honneur de la municipalité de Bobigny.
Voilà, c'était en mai 1968, exposition sur Gutenberg. Bah, et tenez d'ailleurs, Gérard Mandilla, en mai 1968, ou en tout cas en 1968, vous êtes imprimeur vous-même.
Oui, je travaille dans une imprimerie, oui, je fais de l'offset, voilà.
C'est-à-dire ?
Bah, je conduis une offset, j'imprime avec une machine offset. J'avais trouvé ça, ça me plaisait beaucoup. Et j'avais un patron extraordinaire qui était un des faussaires pendant la guerre d'Algérie qui fournissait les faux papiers et qui me disait bah, « Écoute, si tu veux, je vais te faire des diplômes, je vais t'en faire, c'est très facile.
» Donc vous avez eu des diplômes, si vous aviez voulu.
Si j'avais voulu, voilà, j'aurais eu des diplômes et... Ce qui est bien, c'est que comme ça, j'aurais fait le parcours complet de l'imprimerie jusqu'à la publication de livres.
Mais exactement. Avec quel type de livres imprimés ou de publications à ce moment-là, quand vous travailliez ?
Ah bah, on imprimait surtout des thèses et on imprimait aussi des tracts, puisque c'était une imprimerie plus ou moins sous la coupe du PSU. Donc il y avait des textes théoriques, voilà, mais c'était surtout et essentiellement des thèses.
D'accord, surtout essentiellement des thèses, et ce qui nous conduit dans cette longue histoire que l'on traverse avec vous, Gérard Mandilla, à ce moment en particulier, qui vous intéresse dans Les Exaltés, que vous publiez chez Calman Lévy, qui est ce temps de la réforme. Et là aussi, comment on en arrive ici? Et j'ai envie de dire, on y arrive, comme on essaie de comprendre comment tout est lié et qu'on le comprend très bien, par deux chemins. Il y a la religion, mais il y a aussi les luttes sociales.
Bah, il y a, encore une fois, le texte de Engels, qui est pour moi le détonateur, d'une certaine manière. Et puis là, on vient d'entendre sur Gutenberg, il y a évidemment cette... non pas invention, parce que Gutenberg n'a pas inventé l'imprimerie, les Chinois l'avaient déjà fait. Gutenberg a mis au point une encre qui permettait l'impression, ce qui est un peu différent, mais enfin, c'est fondamental. Et qu'est-ce qui se passe au moment de, donc, au début du XVIe siècle? Le pape, Léon X, n'a pas d'argent pour finir Saint-Pierre de Rome. Bramante, l'architecte, est mort, on l'a remplacé par Raphaël. Raphaël découvre un chantier où rien n'est fait, donc il faut absolument des fonds. Et le pape va autoriser, vous verrez, j'arrive à l'imprimerie, va autoriser un prince allemand à acheter l'évêché de Mayence. Alors ça coûte très très cher, il est financé par le banquier Fugger, mais pour se rembourser, le pape l'autorise à... lever des indulgences. Alors les indulgences, c'est formidable. Les indulgences, ce sont finalement des dispenses que accorde l'Église pour ne pas aller au purgatoire ou pour avoir moins de temps de purgatoire. Juste en un mot, les indulgences, c'est extraordinairement précis et cru, c'est les 120 journées de Sodome tarifées. Il faut payer et on fait moins de purgatoire. Luther, qui prof à Wittenberg, va évidemment s'indigner contre ça et publier en latin 95 thèses contre les indulgences, déniant au pape le droit d'accorder un pardon que seul Dieu peut accorder. Et on en arrive à l'imprimerie. Ce texte, écrit en latin, va être traduit par les étudiants de Luther et imprimé. Ça sera d'ailleurs le premier texte imprimé en Allemagne. Et ça va devenir aussitôt, non seulement en Allemagne, mais tout autour, sans doute le premier best-seller de la littérature. et ça va mettre le feu à l'Allemagne, et c'est ce qui portera au bout du compte la réforme sur les fonts baptismaux, si j'ose dire.
Et dans ce moment-là, c'est vrai que la réforme est toujours mise en avant et est oubliée la guerre des paysans, sauf si on a lu Engels.
Le peuple allemand a lui aussi ses traditions révolutionnaires. Il fut un temps où l'Allemagne a produit des hommes qu'on peut comparer aux meilleurs révolutionnaires des autres pays, où le peuple allemand fit preuve d'une endurance et d'une énergie qui, dans une nation centralisée, eussent donné des résultats les plus grandioses, où les paysans et les plébéiens allemands caressèrent des idées et des projets devant lesquels leurs descendants frémissent assez souvent d'horreur aujourd'hui encore. Le moment est venu. En face du relâchement actuel qui se manifeste presque partout après 2 années de lutte, de présenter à nouveau au peuple allemand les figures rudes, mais vigoureuses et tenaces de la Grande Guerre des paysans. 3 siècles se sont écoulés depuis, et bien des choses ont changé. Et cependant, la guerre des paysans n'est pas si loin de nos luttes d'aujourd'hui, et les adversaires sont en grande partie restés les mêmes qu'autrefois.
Max James qui lisait cet extrait de La guerre des paysans de Friedrich Engels, écrit au milieu du 19e siècle, on est en 1850, avec, on l'entend bien dans l'extrait, la motivation pour Engels de dire qu'il y a cette longue tradition révolutionnaire et que les luttes de 1850 sont héritières de celles auparavant.
Mais, oui, mais pourquoi j'écris un roman ? Mais parce que le roman va permettre de mettre en scène 2 personnages très importants de cette époque. D'abord Luther, qui évidemment sera le déclencheur, et face à lui un autre prêtre qui s'appelle Thomas Münzer, qui d'abord est un grand partisan de Luther, parce que le message de Luther sera reçu partout comme une critique non seulement de la papauté, mais de l'organisation ecclésiastique, parce que les gens sont rançonnés par les prêtres, comme ils sont rançonnés par les seigneurs. Et d'abord, ils sont... Enfin, c'est pour ça que j'aime bien raconter le roman comme un western, parce qu'on voit 2 personnages qui ont tout pour se comprendre, qui devraient être frères, qui partagent la même culture, la même foi, etc., et qui vont se retrouver chacun d'un côté, comme dans les westerns, de l'allée centrale, prêts à s'entretuer. Et ils vont s'entretuer, parce que Luther, étant dépassé lui-même par ce qu'il a provoqué, il n'a pas cherché à provoquer ça, d'un seul coup, il a enflammé l'Allemagne. Et il va à la fois prendre peur, être extrêmement prudent, parce qu'il risque évidemment sa vie. Il va se mettre sous la protection des princes, et notamment de Frédéric, qui est le prince électeur d'Allemagne. Et d'un autre côté, les paysans voient dans ce discours, bien finalement, un discours de liberté. Ils vont se mettre à piller les couvents, les monastères. Ils vont libérer beaucoup de nonnes qui, justement, sont en fait retenues prisonnières parce que les familles les placent là, ne sachant qu'en faire. Bon, va y avoir ce grand mouvement. Et ces 2 hommes, Luther et Münzer, eh bien, forcément, vont être les 2 figures emblématiques de ce combat et de cette guerre des paysans, parce que Luther va soutenir les princes et Münzer, de par son histoire, va se solidariser avec les paysans. Parce que il a en tête, lui, les premiers chapitres des Actes des Apôtres, avec cet idéal de partage des biens, avec cet idéal de vie en communauté. C'est pour ça que Engels verra, et surtout, pardon, Ernst Bloch, ou peut-être même déjà Engels, verra Münzer comme une sorte de proto-communiste. Ce qui est un peu poussé loin, parce qu'il était, il n'y avait pas un projet social, il y avait un projet spirituel, et qu'il l'a porté, parce que Münzer était surtout un prophète. Il n'était pas un chef de guerre, il était un prophète. Et donc, voilà, c'est ça que le roman permet d'écrire, de faire vivre des personnages comme si on était partie prenante de cette histoire. Et j'ajouterais qu'il y a là quelque chose aussi que le roman permet, c'est de faire exister des personnages féminins. Parce que l'histoire étant écrite par des hommes, on sait peu de choses aussi bien de la femme de Münzer, qui était une nonne en rupture de couvent, mais qui avait été une nonne érudite, et donc on pense aujourd'hui, et plusieurs travaux qui ont été publiés laissent entendre qu'il est impensable qu'elle n'ait pas été pour quelque chose, notamment dans la définition du rite qui deviendra le rite protestant par excellence. Et puis d'un autre côté, la femme de Luther, Katharina von Bora, elle aussi nonne en rupture de couvent, qui elle aussi était une érudite, et dans les propos de table de Luther, on voit qu'elle était capable de contredire son mari. Or, Luther pensait être le seul à porter la voix du Seigneur. Donc, les rôles des femmes, enfin, c'est un livre d'hommes où les femmes ont un rôle fondamental, un peu en dehors, mais bon, tout à fait fondamental. Et je crois que c'est ça, la puissance du roman, c'est de raconter une histoire, de faire vivre une aventure et de permettre à chacun d'en être partie prenante.
Pourquoi ce titre, Les Exaltés ?
Les Exaltés, c'était ce que Luther dénonçait, Luther et ses amis, comme Mélenchon, par exemple, et non pas Mélenchon, comme certains veulent le voir, mais Mélenchon, c'était tous ceux qui étaient contre lui, que ce soit les anabaptistes, les spiritualistes, tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui, c'est-à-dire le monde entier, c'était les Exaltés.
Et
je trouve que c'est très bien, parce que c'est vrai qu'il y a, en même temps, dans un autre sens, Thomas Münzer est un exalté. Il y a une exaltation en lui, il y a un désir à la fois prophétique de transformer le monde, mais de le transformer de façon spirituelle, avant que ce soit une transformation physique et sociale. Mais c'est ça, c'est pour ça, sous la torture, il aurait dit, c'est la phrase la plus célèbre de lui, « Omnia sunt communia », toutes choses sont communes. Et c'était cet idéal de partage fraternel qui existe dans le début des Actes des Apôtres. Et je crois que c'est ça qui l'a porté. Alors, on peut y voir là, évidemment, une sorte de germe de ce que sera le communisme. Et on voit encore aujourd'hui, dans les manifestations, notamment des anarchistes, défiler sous la banderole « Omnia sunt communia ». C'est quelque chose qui a traversé le temps. Et je pense que Engels avait bien vu que ça traverserait, parce que cette révolte est une révolte permanente. On a eu récemment, alors c'était pas la révolte des paysans, mais enfin il y avait quand même, on voit bien que cette question paysanne, la question de la position dans la société des paysans, qui se pose aujourd'hui dans des termes absolument différents de ceux du XVIe siècle, bien entendu, c'est quand même quelque chose qui appartient à notre histoire, qui appartient à notre culture. Et c'est terrible, parce que bon, au XVIe siècle, la condition paysanne était terrifiante, puisque c'était le servage, et que des gens étaient esclavagisés, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Et, on se révolte, et on se révolte contre la papauté, contre l'institution ecclésiastique, pour des raisons sociales et politiques, et puis ensuite, les théologiens en feront leur miel pour définir si t'es effectivement dans la droite ligne de ce qu'a dit le Seigneur.
Avec la position étonnante toujours de Luther dans cette histoire, de se dire que le mouvement est là, il est massif, c'est lui qui l'a lancé involontairement en proposant ses thèses, et que quand il voit ce soulèvement massif, qui n'est pas tant un soulèvement des plus pauvres paysans que certains paysans aisés, il y a même quelques artisans qui sont
et
de la partie.
Et même des ouvriers, parce que le terme existe aussi à l'époque, notamment des mineurs qui travaillent dans les mines d'argent et des choses comme ça, bien sûr. Oui, non, mais c'est assez large, il n'y a pas seulement les serfs. Il n'y a pas de direction. C'est ça ce qui sera la grande faiblesse de ça. Münzer ne sera jamais le général en chef de ça. Et il sera toujours le prophète de cette histoire, quoi. Alors, Luther, ce qui est formidable, c'est que c'est un personnage romanesque extraordinaire, Luther, parce que c'est évidemment un génie, une très grande intelligence. C'est lui, donc ses traductions de la Bible et du Nouveau Testament sont fondamentales dans l'histoire allemande. C'est ce qui structure la langue allemande, d'une certaine manière. Et puis, d'un autre côté, c'est un personnage obsédé par le diable qu'il voit et avec qui il est en relation constante. Pour lui, c'est une réalité, le diable. Et surtout, ce qu'on découvre aussi, c'est une forme, et je pense que ça existe beaucoup en Allemagne à ce moment-là, et ça se poursuivra, une tradition de scatologie. C'est-à-dire qu'il est toujours, pardonnez-moi l'expression, il est toujours les pieds dans la merde, et que le diable est une manifestation réelle et concrète qu'il doit affronter.
Voilà, la scatologie, l'eschatologie.
Il n'y a qu'un pas.
Il n'y a qu'un pas. Qu'il soit du pied gauche. Avec tout ce lien, et on l'entend bien, en étudiant à travers les exaltés la réforme et puis cette guerre des paysans, bah, ce sont les textes du Nouveau Testament que vous aviez déjà croisés dans Corpus Christi, Jésus après Jésus. C'est cette longue histoire, mais c'est un peu ce que font Marx et Engels. C'est essayer de relier dans l'histoire tous les éléments qui peuvent conduire à la compréhension de leur temps à eux, le 19e siècle.
Voilà, et c'est pour ça que je trouve qu'aujourd'hui, dans la situation où nous sommes, le roman est sans doute le meilleur coin pour comprendre ce qui se passe. Parce que la distance historique que vous venez de citer nous permet de regarder le réel présent avec justement ce léger recul qui permet une analyse plus forte et, à mon avis, plus profonde. J'aime beaucoup la phrase de Eri De Luca qui disait que la fiction est plus généreuse que l'histoire et souvent plus précise. Eh bien, dans Les Exaltés, la base historique est évidemment très profonde. Et puis, eh bien, l'art du roman permet cette lecture qui, sans doute, nous ne serait pas aussi agréable et aussi pertinente si c'était simplement une étude historique. Non, non, c'est un roman. Et le roman, bah oui, vous l'avez cité plusieurs fois, c'est un plaisir. Et je crois, j'insiste sur ça, parce que c'est une histoire très violente, c'est un western, un eastern, puisque ça se passe dans l'Est, mais en même temps, c'est aussi une histoire d'apprentissage, c'est aussi... On est dedans, on est dans cette bataille et on va jusqu'au bout de la bataille à travers les yeux d'un élève de Raphaël qui justement sert de lien entre Luther et Münzer parce qu'il a été envoyé par le pape pour surveiller qu'on lui vole pas son argent.
Ah oui, puis ça c'est toujours l'intérêt du roman, c'est qu'on comprend les choses, parce qu'il faut être honnête, il y a une transmission de l'histoire à travers le roman, mais ça glisse tout seul. Le lien entre la fiction et l'histoire est un lien constant. On a commencé l'émission en évoquant, c'est vrai, le mur des fédérés, on était du côté de Belleville. Ben restons dans cette atmosphère.
On peut imaginer que Lucie Beau était une rebelle. Elle l'a été dans toute sa vie, pas, même son mariage est surprenant. Elle se marie avec un homme veuf et de 20 ans plus âgé qu'elle. Ça ne se fait pas habituellement. Il faut dire qu'un enfant était certainement en route puisque cet enfant naît 4 mois et demi après leur mariage. Il est probable que sa famille ne l'approuvait pas. Ça ne se faisait pas. Donc on peut imaginer qu'elle a agi par amour pour cet homme. On peut imaginer des tas de choses qu'on ne sait pas, bien sûr. Et dans toutes ses actions, elle est comme ça. C'est pas... fonde le syndicat, s'en va là-bas au congrès, ensuite rentre, et ensuite, au fond, lance la grève de Visile, hein, avec des camarades, des compagnes, comme on disait, de travail, qui étaient des jeunes filles. Et des jeunes filles dont une partie était interne, une partie rentrait chez elles, mais qui, en principe, n'étaient pas des grévistes absolument patentées.
Et ben voilà, c'est Michel Perrault qui en 2012 sur France Culture s'exprimait à propos de Lucie Beau, cette guerre des paysans du XVIe siècle, la Commune de Paris, et puis ces grèves des ouvrières au XXe siècle.
Bah, j'ai eu la chance de pouvoir tourner une adaptation de l'essai de Michel Perrault sur justement Mélancolie ouvrière, sur... Lucie Beau, qui est un personnage extraordinaire. Et c'est vrai que dans Les Exaltés, d'une certaine façon, le personnage de Teddy Gersen, la femme de Münzer, doit quelque chose à Lucie Beau. Forcément, nécessairement. Parce que Lucie Beau nous a transmis un texte qui a été publié dans une revue socialiste à l'époque. Et ce texte est extraordinaire pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une femme. Ce qui était rare à l'époque pour écrire et pour écrire sur le terrain social. Deuxièmement, elle écrit à la première personne. Et c'est encore plus rare, parce qu'elle assume exactement ce qu'elle a fait, voilà. Et puis ensuite, elle est d'une précision presque notariale sur ce qui s'est passé. Non, c'est un texte magnifique où on entend sa voix, et Michel Perrault a fait cette recherche formidable pour essayer de la faire sortir du néant, et j'espère avoir pris le relais pour la faire aussi sortir du néant. Et ben, c'est difficile parce qu'il reste très peu de choses. Et là, j'entendais Michel Perrault, il y a une chose aussi qui est très intéressante avec Lucie Beau, c'est que la tombe de son mari et de son premier-né, puisque son mari meurt très vite et son premier-né meurt aussi très vite, est la seule tombe du cimetière où il n'y a pas de croix, ce qui laisse à penser qu'elle avait rompu avec la religion. Ouais. Ouais. Eh bien, on voit aussi dans les exaltés des nonnes, que ce soit la femme de Luther et celle de Münzer, qui ont rompu avec la religion. Donc, c'est vraiment des moments essentiels de l'histoire, quoi. Et c'est vrai que, de la même façon qu'il y a une tradition de lutte à travers la lutte des femmes, qui remonte alors même si on prend la Révolution française, etc., etc., et qui passe par, bien sûr, la réforme où la lutte des femmes aussi est moins mise en évidence, mais c'est quand même très intéressant de voir que toutes les... Enfin, que beaucoup de nonnes, énormément de nonnes, quittent les couvents et se marient, vivent autre chose, etc. Et puis on arrive à Lucie Beau, et qui va inaugurer quelque chose qui, là aussi, avec un courage et une détermination incroyable, va mettre sa vie en jeu. Et d'ailleurs, elle en mourra sans jamais voir ce qui a été un des points importants de son combat, c'est d'obtenir les 8 heures de travail par jour et de trouver un salaire égal pour les hommes. Et ça, ce combat-là, ben, il se poursuit toujours aujourd'hui. Ah ben je veux dire, il se bat toujours aujourd'hui. C'est toujours d'actualité. Et c'est ça, moi, qui me plaît aussi, et c'est pour ça que dans les domaines que j'ai pu traverser, eh bien, c'est de... donner la main, tendre la main à l'histoire pour traverser le temps et pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Et toujours, toujours, parce que ça nous permet de parler du réel, dont la définition, une fois pour toutes, est celle de Lacan, le réel, c'est ce qui ne va pas. Eh bien, voilà, moi j'écris de façon réaliste sur ce qui ne va pas.
Dans Les Exaltés, Gérard Mordillat, vous avez ici un carrefour de tous vos centres d'intérêt, parce qu'il y a cette histoire sociale, cette histoire des femmes, mais que vous placez vous-même, parce que là, c'est à vous de faire la démarche pour les mettre là. Et puis évidemment, l'histoire des textes et de la religion, c'est un joli carrefour. Hein
oui, c'est un long travail qui vient de très loin et qui, j'espère, un jour aboutira aussi à une expression cinématographique. Ça serait pour moi la meilleure façon de faire. Parce que dans tous les travaux que j'ai pu faire, il y a toujours eu ce dialogue avec Jérôme Prieur. Nous sommes partis des textes, puis nous avons tourné les séries que nous avons tournées, puis nous avons publié les essais que nous avions réfléchis en faisant ce travail. Donc on est parti d'un texte, on est passé par l'image, on est revenu au texte. Idem pour Antonin Artaud, on part du journal de Jacques Prevel, on tourne un film documentaire sur cette période-là, je tourne un film de fiction avec Samy Fray et Marc Barbet, et à la fin, on réédite tout Jacques Prevel, notamment tous ses poèmes, etc. Donc il y a toujours ce chemin. Bien, là, cette histoire qui, pour moi, a commencé vraiment par la lecture de Engels, puis qui est passée par Roberto Rossellini, qui, je l'ai découvert à cette époque, j'ignorais tout du cinéma, puisque j'étais ouvrier imprimeur. Mais Rossellini avait quand même réussi l'exploit de ne jamais gagner un sou avec un de ses films, donc personne ne voulait miser sur lui. Donc la chose ne se fait pas, peu importe. Eh bien, j'espère lui rendre un jour hommage en pouvant tourner, en parvenant à tourner enfin, le film que nous aurions dû faire ensemble.
J'aime beaucoup cette idée que ce n'est pas le format qui va s'adapter à un sujet pour dire « Tiens, telle histoire, c'est mieux en bande dessinée, en roman ou en film. » Mais Gérard Mordillat, de se dire que le sujet peut être raconté de manière différente selon la forme que vous choisissez.
Mais parce que plus que le sujet, il y a l'impulsion, il y a l'idée, il y a... Vous voyez, enfin, tous mes livres, voire tous mes films, sont toujours partis d'une image. Pour les exalter, l'image fondamentale, c'est Münzer à la bataille de Frankenhausen. C'est ça l'image fondamentale. Il y a d'un côté 8000 paysans, très mal préparés à la guerre. Ils ont des faux, ils ont des bâtons, ils ont des piques, enfin voilà. Et puis de l'autre côté, il y a les armées des princes. Des armées professionnelles, avec des armures, des chevaux, etc. Il y a un grand orage, tout le monde est saucé, puis d'un seul coup ça s'arrête, et qu'est-ce qui apparaît ? Apparaît un arc-en-ciel. Et là, Münzer, qui est un prophète, voit l'arc-en-ciel comme le signe que Dieu veut que faire l'alliance avec lui, qu'il faut, et il fait lancer l'attaque des paysans, ce qui est une folie absolue, il y aura 8000 morts. Ils se feront mais taillés en pièces. Bon, bah pour moi, c'est l'image fondamentale. L'arc-en-ciel est l'image fondamentale. C'est à partir de ça que j'ai écrit le livre. C'est pour arriver là, pour voir cette image fondamentale. Lucie Beau, c'est de la voir, l'image pour moi fondamentale, c'était sur la fin de sa vie, quand elle va faire cette tentative de suicide, quand elle est seule chez elle, que ses filles ne veulent plus la voir, que plus personne ne veut la voir, elle est assise sur son lit, elle a écrit ce texte qui nous est parvenu, et elle va se tirer 3 balles dans la bouche. Ben, c'est ça l'image fondamentale. Ça marche comme ça. Et donc, c'est pour ça que je dis, plus que le sujet, c'est l'impulsion, c'est l'énergie, c'est l'idée que l'on va trouver quelque chose qui va nous éclairer.
Bah, merci vivement à vous, Gérard Mordillat, de nous avoir éclairé les exaltés séchés Calman Lévy. Et comme image fondamentale, je retiens que pour le mur des fédérés, il ne faut pas le voir, en fait. Il faut être dos au mur plutôt qu'à la place du peloton d'exécution. Merci vivement à vous d'être venu dans le cours de l'histoire.
Merci.
Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment.
Pourquoi Tahar Acherchour fut-il l'un des héros du Front populaire? Aux savonneries Cusinberge à Clichy, à la tête d'une bande fasciste armée, un patron assaille ses ouvriers et fait feu sur eux. Il en abat un sous ses balles. 7 autres sont blessés à coups de matraque. C'est ainsi que le 24 novembre 1936, les lecteurs de l'Humanité découvrirent l'affrontement sanglant qui causa la mort d'un militant de la CGT. Le surlendemain, un gros titre de la première page dévoila l'identité de la victime. Tahar Acherchour est mort de la balle patronale. Ce fut le point de départ d'une mobilisation qui atteignit son point culminant le dimanche 29 novembre. L'Humanité publia ce jour-là l'appel de l'Union des syndicats ouvriers de la région parisienne, incitant tous les travailleurs à accompagner la dépouille d'Acherchour jusqu'à la gare de Lyon, d'où il regagnera sa terre natale. L'article était accompagné d'une photo des conseillers généraux communistes de la Seine rassemblés près de la dépouille mortelle exposée à la maison des syndicats. Derrière le cercueil, une grande tenture était frappée de l'emblème de l'étoile nord-africaine. Au milieu de toutes ces marques de sympathie des travailleurs de la région parisienne, la garde d'honneur est là, immobile, impressionnante, car on voit à côté des camarades algériens, des indochinois et les représentants des travailleurs nègres. C'est devant ces hommes de races si différentes, mais unis par leur idéal de justice humaine et de progrès social, que va défiler le Paris ouvrier, populaire et républicain. Le lendemain de cette cérémonie, Marcel Cachin, le directeur de l'Humanité, salua le très grand événement qui s'est passé hier dans les rues du 11e et du 12e arrondissement de Paris. C'est l'affirmation d'une solidarité profonde entre les travailleurs de la France et des colonies que le capitalisme essaye de jeter les uns contre les autres. Tahar Acherchour, né le 21 janvier 1908 dans un village de petite Kabylie, était manœuvre dans une savonnerie de Clichy. Syndiqué à la CGT, il militait également au sein de l'Étoile nord-africaine, l'association fondée en 1926 par des travailleurs immigrés algériens pour combattre le système colonial. L'emblème de l'Étoile nord-africaine avait été déployé derrière son cercueil pour rappeler publiquement cette double appartenance. La cérémonie en hommage à Tahar Acherchour, marqua le point culminant du rapprochement entre le « nous ouvrier » et le « nous colonisé » unis contre un ennemi commun, le patron d'une savonnerie qui n'avait pas hésité à tirer sur des grévistes. Dans le contexte des luttes sociales intenses qui marquèrent l'histoire du Front populaire, les divergences qui avaient éclaté en 1928 entre Messali Hadj, le leader de l'Étoile nord-africaine, et le PCF, concernant l'autodétermination de l'Algérie avait été surmontée. Mais ce fut de courte durée. 2 mois après la mort de Tahar Acherchour, l'étoile nord-africaine fut dissoute par le gouvernement de Léon Blum. Dans ses mémoires, Messali Hadj accusa le PCF de l'avoir trahi. L'ombre du malheureux Acherchour est à peine effacée que vous traitez les Nord-Africains d'anti-français dans le journal des prolétaires.
Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet, avec aujourd'hui à la technique d'Aliya. Émission préparée par Maïwenn Guizhou, Jeanne Delecroix, Anne-Toscane Vudès, Jeanne Copet et Mathieu Copal. Le cours de l'histoire est à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.